On va continuer avec Sylvain Bourmeau, qui est producteur à France Culture, après être passé par les Inrock, Mediapart et Libération. Sylvain, vous allez nous parler d'un écrivain qui est devenu très célèbre en 1997 avec un roman qui s'appelait Les Particules élémentaires. Mais là, on va revenir un peu en arrière avec son premier roman, Extension du domaine de la lutte, publié chez Maurice Nadeau en 1994. Il s'agit bien sûr donc de Michel Houellebecq. Je vous laisse en parler.
Merci. Je reste ici parce que je ne veux pas en parler au pupitre ou en chair. Et n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions, à me relancer. Je serais bien incapable, plus de 20 ans après la parution de ce livre, d'en proposer une évaluation objective. Ce qui m'importe plutôt, c'est d'essayer de restituer la manière dont, de manière très subjective, j'ai reçu ce livre à l'époque où il a paru, à l'automne 1994, et pourquoi je crois, de manière peut-être plus objective cette fois, qu'il s'est agi d'un moment important, parce que je le considère plus encore aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, qu'à certains égards, ce livre a ouvert une séquence au-delà même de Michel Houellebecq pour la littérature française, pas forcément s'agissant des textes même, mais plutôt, je dirais, des aspects publics de la littérature, des aspects économiques, des aspects sociaux. Beaucoup de choses ont changé vite dans la deuxième moitié des années 90, s'agissant de la manière dont la littérature existait dans la société. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui me semble être dans le prolongement de ces changements. Et ça a été le fait, pour beaucoup d'auteurs apparus à ce moment-là, on pourrait avoir une séquence. D'ailleurs, Marie Dariussecq va parler, pas juste après, mais pour 1996 et son premier roman aussi, Truisme, mais vous auriez pu retenir pour 1995 Virginie Despentes et Baise-moi, premier roman encore une fois marquant. Donc cette succession sur ces trois années me semble traduire quelque chose que d'ailleurs, sur le moment, avec Marc Weitzman, on avait voulu consigner dans une anthologie qui s'appelait 10 et on retrouvait trois auteurs que je viens de citer parmi 10 autres. Extension du domaine de la lutte. C'est un livre important aussi pour moi parce que c'est le premier livre à propos duquel j'ai commandé un compte-rendu pour un journal qui était Les Inoccupables. Mais c'est là, avant, j'écrivais des articles, mais là, c'est la première fois que je me trouve en situation de demander des articles à des journalistes. Et il se trouve que j'ai commandé un article sur ce livre à Marc Weitzman et qu'on l'a publié dans le dernier numéro mensuel des Inrock en décembre 1994. Il y avait déjà, puisque le livre a paru à la rentrée 1994, mais ce qui est compliqué à comprendre aujourd'hui, c'est qu'on n'était pas dans des phénomènes de rentrée littéraire comme elles existent aujourd'hui. Je ne dis pas que ça n'existait pas, mais la chose s'est considérablement amplifiée. D'ailleurs, je pense qu'on y a pris notre part, d'une certaine façon, en organisant éditorialement aux Inrock ce moment de l'année, en le mettant en scène. Mais en 1994, ce n'était pas le cas. Ce roman de Michel Houellebecq était inconnu, très largement inconnu, sauf par un milieu relativement restreint de gens qui s'intéressaient à la poésie contemporaine, puisqu'il avait publié deux recueils de poésie, puis aussi un essai sur Lovecraft. Donc peut-être certains amateurs de science-fiction ou de Lovecraft avaient lu Michel Houellebecq, mais en dehors de ça, c'était quelqu'un d'inconnu. Et en fait, ce livre a bénéficié, comme on dit, d'un bouche à oreille qui a duré assez longtemps. Et ça c'est, oui, il a fallu presque une année pour que ce livre atteigne la dimension de phénomène en quelque sorte, ce qui devait correspondre peut-être à 10 ou 15 000 exemplaires vendus à la fin de cette première année, hein, c'était pas non plus mais voilà. Et alors pourquoi c'est compliqué à expliquer, d'autant que je faisais partie de ceux qui sur le moment ont eu l'impression, on ressentit la lecture de ce livre comme un choc, pour deux raisons en fait. D'une part, pour caricaturer, on pourrait dire en raison de la thèse de ce roman, parce que c'est un roman à thèse. D'ailleurs, elle est énoncée comme telle dans le livre. Je vais y revenir plus tard. Et d'autre part, du fait de la capacité de ce livre à saisir une ambiance, un état d'esprit du moment, de l'époque, enfin un peu plus large, et à parler en particulier de choses qui n'avaient pas tellement le droit de citer dans la littérature, le monde de l'entreprise et a fortiori le monde de l'entreprise du secteur tertiaire, c'est-à-dire pas... c'était pas les usines de François Bon, c'était pas ou les garages de François Bon, c'était un autre univers du travail qui jusqu'alors avait été relativement peu exploré par la littérature contemporaine. Et d'ailleurs, ce livre va ouvrir, à mon sens, un filon en quelque sorte. Beaucoup d'épigones s'engouffreront derrière Michel Houellebecq. Je dis pas, sans doute beaucoup d'entre eux avaient cette idée avant d'avoir lu Houellebecq. Peut-être pour certains ne l'ont-ils pas lu. Je pense que ça participe d'un moment. Mais aucun, à mon sens, ne l'a fait avec le talent de Michel Houellebecq. Il faudra probablement attendre, de mon point de vue, Aurélien Bélanger pour trouver quelqu'un directement influencé par le travail de Houellebecq et qui produise des livres qui, par ailleurs, ont une identité, un auteur singulier qui arrive à garder une certaine distance par rapport à son modèle. Et donc, je le disais, dans Extension du domaine de la lutte, il y a une thèse qui est assez simple et que Michel Houellebecq a découvert en fait en écrivant le livre. C'est pas comme s'il avait rédigé cette thèse avant et qu'il s'était dit je vais écrire un livre pour illustrer ça. C'est-à-dire que il s'est rendu compte. Il a commencé ce livre par la première phrase et il s'est rendu compte en écrivant que le sujet central du livre devenait pour le dire avec lui, que la sexualité était un système compétitif et qu'il y avait un lien entre le marché de la sexualité et le capitalisme et le marché du travail. Et il l'énonce comme une thèse au milieu du livre, mais encore une fois, ce n'était pas un paragraphe écrit à l'avance qu'il s'agissait de placer dans un contexte. Il l'a découvert. Et il ne l'a même pas découvert, puisque c'est en même temps enfoncer une porte ouverte de dire ça. Comme il le dit, c'est le cas dans toutes les sociétés, même animales. Pourquoi ce ne serait pas le cas chez l'homme? Et tout le monde le sait depuis longtemps. Mais en fait, ce qui a probablement touché beaucoup de lecteurs, et y compris l'auteur, s'agissant de la réception de son livre, c'est que énoncer de manière extraordinairement simple et crue cette vérité a produit ce qu'on pourrait appeler un effet de réel, en quelque sorte, et quelque chose de saisissant. Et je crois que beaucoup du choc de la lecture de ce livre tient à cette chose très simple, très condensée dans ce livre, énoncée de façon même caricaturale dans ce roman. L'autre chose, donc, je disais, c'est plus cette ambiance, ce moment, ce monde du travail. Alors là, en fait, il faut écouter Houellebecq quand il parle, je pense à un entretien qu'il m'avait accordé au début des années 2000, où on était revenu sur Extension du domaine de la lutte, où il m'avait confié qu'il y a un livre qui l'a beaucoup influencé quand il a écrit Extension du domaine de la lutte. C'est un livre qui ne pouvait pas entrer ici dans la liste parce qu'il a été écrit 10 ans avant l'ouverture du Centre Pompidou. C'est le troisième roman de Georges Perec, qui est Un homme qui dort. Et ce livre, dans lequel il ne se passe rien, avait beaucoup impressionné Houellebecq, qui lui aussi avait envie d'écrire un livre dans lequel il ne se passe rien. Et je crois que c'est ce qui donne sa force et en même temps ses limites à ce livre, parce qu'au fond, l'idée de reposer sur la vision du monde du narrateur est à la fois une chose intéressante pour décrire une sorte de vacuité liée à ces expériences professionnelles ou sociales, et en même temps, bah, finalement, cette vision du monde, elle n'est pas si intéressante que ça. Et je crois que Houellebecq lui-même, aujourd'hui, perçoit ce roman comme... pas suffisamment développé. Certains personnages, en particulier Tisserand, il fait mourir trop tôt. Son personnage féminin aurait pu être beaucoup plus développé. D'ailleurs, on va voir dans les romans suivants qu'il va prendre l'habitude de développer davantage ses personnages. Je pense qu'il est encore sous l'influence de ce livre de Perec qui le contraint. Peut-être aussi, c'est son premier roman, il a écrit de la poésie avant. N'ose-t-il pas véritablement donner plus de chair ou d'épaisseur à ces personnages, ou aller du côté du roman d'idées, ce qui sera le cas avec les particules élémentaires et puis tous les autres par la suite. Toujours est-il que il dit aujourd'hui que la troisième partie de ce livre est ratée. Voilà. Mais qu'il
c'est quand même un ratage qui rend le livre attachant aussi.
Oui, c'est un livre extraordinairement attachant, y compris avec ses limites. Je n'allais pas dire, oui, plutôt limites que défauts. Et en revanche, il est très content de la dernière page, qui c'est vrai, donne une note de lyrisme qui n'est pas sans rappeler la troisième partie sublime, à mon avis, ce qu'il a écrit de plus beau depuis le début, qui est la troisième partie de La possibilité du Nil, qui est un roman dans lequel il arrive à faire triompher la poésie. Ce qui n'est pas chose aisée, mais ça donne des indices. Mais peut-être pour terminer, parce que je ne sais pas où on en est du temps, je voulais, juste pour donner des informations sur le contexte, Michel Houellebecq a publié ce livre aux éditions Maurice Nadeau en 1994, mais en fait, le livre était terminé quelques années avant. Il a eu énormément de mal à faire publier ce livre. C'est Dominique Noguès qui lui a donné l'idée de Maurice Nadeau. Houellebecq pensait que Nadeau était mort déjà depuis longtemps. Et en fait, il mourra bien plus tard, Maurice Nadeau. Et Nadeau lui a pas dit grand-chose. Il lui a trouvé le livre bon, qu'il allait le publier. Puis en fait, ça traînait. Donc il était obligé de le rappeler en lui disant « Mais vous devriez arrêter de vous occuper de la quinzaine littéraire. Vous occupez-vous de votre maison d'édition. Vous avez des auteurs qui attendent. » Et donc, en fait, ce livre aurait probablement pu paraître en 92 ou 91, 92. Et voilà. Juste un dernier mot sur la couverture qui a été faite par Houellebecq lui-même et qui, je pense, participe de cette esthétique voilà, de l'économie tertiaire dont je parlais tout à l'heure, aussi bien dans son graphisme très, très simple et on dirait un document, un rapport d'entreprise au fond, la couverture de ce livre. Voilà.
Bien, écoutez, Sylvain Bromeau, c'était parfait dans le temps, dans le ton et dans le contenu de ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer, mais on va changer un peu de paysage, puisqu'on va aller écouter une voix qui est née après la guerre de libération de l'Angola et après la révolution des œillets au Portugal. Une des plus belles voix de la littérature mondiale, qui est celle d'Antonio Lobo Antunes, avec un roman qui s'appelle, qui est un roman qui a une connotation très importante pour les Portugais, qui s'appelle Le Retour des Caravelles, qui a été publié en 1990. Et c'est Léa Casadamon, qui est étudiante en littérature et en histoire de l'art, qui va nous parler de ce livre-là. Je vous laisse, Léa, nous évoquer ce magnifique roman d'Antonio Lobo Antunes.
Alors, bonjour. Antonio Lobo Antunes, c'est un des grands auteurs... merci. Ça va là ? C'est bon ? C'est bien. Un des grands auteurs portugais contemporains qui a reçu de nombreux prix littéraires. Son dernier roman, Pour celle qui est assise dans le noir à m'attendre, a été publié en 2016. Il est né en 1942. C'est un médecin psychiatre de formation qui a participé en tant que médecin à la guerre coloniale en Angola. Et il s'est notamment penché dans plusieurs de ses romans sur une certaine histoire du Portugal. Alors c'est le cas dans Le cul de Judas, qui est un roman publié en 1979 qu'il a rendu célèbre au Portugal. Et c'est le cas dans une tétralogie publiée entre 82 et 88 qui se compose des romans Explication des oiseaux, Fado Alexandrino, La farce des damnés et Le retour des caravelles. Alors, entrer dans le texte d'Antonio Lobo Antunes, Le retour des caravelles, pour moi qui ne connaissais pas cet écrivain jusqu'à présent, ça a d'abord été une expérience de lâcher prise. Un lâcher-prise nécessaire face à la désorientation dans laquelle j'ai été plongée dès les premières pages. Un vertige qui était d'ordre à la fois narratologique et stylistique, puisque Antonio Lobo Antunes brouille les codes de l'énonciation classique. Il fait se télescoper différentes voix et différentes situations et dans un rythme très dense. Alors, on a pu parler de contre-épopée à propos du retour des caravelles. Et c'est ce terme que j'aimerais bien interroger ici. D'abord parce qu'il me semble que ce vertige par lequel le lecteur est immédiatement saisi, Je crois qu'il peut être rapproché d'une sorte de souffle épique, de fièvre, qui sont ceux de l'écriture même. Et d'ailleurs, je salue à ce titre le travail de traduction que je crois très fort de Michel Giudicelli et Olinda Kleiman. Donc, pour moi, l'écriture d'Antonio Lobo-Antunes, c'est une sorte de vague qui submerge le lecteur, qui submerge les personnages, le temps du récit, le temps historique. Et cette vague, il s'agit de l'accompagner plutôt que de tenter de la prendre à contre-courant. Et à partir de là, on découvre de très belles choses. Alors, pour revenir sur cette question de l'épopée, l'épopée, elle exalte généralement des héros, de grands faits, une suite d'événements historiques sublimes. Alors, le roman d'Antonio Lobo-Antunes puise bien sa matière première dans l'histoire du Portugal, puisque c'est le Lisbonne des années 70 qui constitue la toile de fond du récit. Donc un décor historique auquel viennent s'entremêler différentes époques, et essentiellement celle des grandes découvertes. Mais alors, ce qui fait un peu douloureusement défaut dans cette peinture du Lisbonne des années 70, c'est précisément le sublime. Ce Lisbonne des années 70, il accueille le retour des caravelles. Donc c'est le retour des colons portugais à partir de la révolution des œillets. Puisque après le coup d'état militaire, les nouveaux dirigeants donc, qui ont mis fin à la dictature salazariste négocient l'indépendance avec les colonies d'Angola, de Guinée-Bissau et du Mozambique. Or, c'est à une misère noire que sont confrontés ces colons de retour en métropole. Et je voudrais vous lire un petit passage à ce propos du roman. « Pourtant, je n'ai jamais croisé d'homme aussi amer qu'à cette époque douloureuse où les paquebots rentraient au royaume plein à craquer de gens rageurs et désespérés, avec pour tout bagage un baluchon à la main et une aigreur incurable au fond du cœur, humiliés par leurs anciens esclaves et par la souveraineté ornée de plumes des anthropophages. Les colons, qui ne réussissaient à aller ni au Brésil ni en France, faisaient penser à des anges qui auraient désappris de voler et traînaient des semelles terrestres dans les quartiers les plus sordides de la ville. » Donc on suit chapitre après chapitre les errances de différents personnages qui parfois se rencontrent. Sont des hommes et des femmes qui ont été brutalement déracinés des colonies, qui sont quasiment sans attache en métropole et qui se retrouvent propulsés dans cet ordre sociopolitique nouveau de la Révolution. Alors, qui les prend certes en charge, mais un petit peu à la façon d'un marionnettiste qui manipulerait ses pantins. Certains retombent mieux que d'autres sur leurs pieds, mais c'est en misant sur une gangrène sociale, sur l'alcoolisme, l'isboète et la prostitution. Donc je crois que c'est vraiment l'histoire avec sa grande hache, pour reprendre la formule de Georges Perec, qui fait tomber son couperet sur ses destinées individuelles. Et peut-être qu'on retrouve là quelque chose de la souffrance des hommes qui est exposée par l'épopée homérique, justement, de cette difficile condition humaine. Mais là, dans le roman, elle est vidée du sublime et de l'héroïsme. Alors, si l'héroïsme, il apparaît absent du roman, on rencontre quand même des héros. Puisque ce qui fait aussi retour avec ce retour des caravelles, ce sont de grands personnages du passé national, dans des hommes de lettres, des rois, des explorateurs aussi, donc qui convoquent l'époque des grandes découvertes, donc cette époque glorieuse où le Portugal était une puissance mondiale. L'auteur traite ces figures historiques de façon très ambiguë. D'abord parce qu'elles sont frappées d'une ambiguïté de statut entre réalité historique, légende et merveilleux, ce qui constitue d'ailleurs l'alliage topique de l'épopée. Il me semble qu'en fait, il convient mieux de parler de fantastique que de merveilleux à propos de ces figures, puisqu'elles surgissent dans le Lisbonne des années 70. Alors, sans que ce saut temporel paraissent les étonner outre mesure. Donc un explorateur peut croiser une statue à son effigie en se promenant dans la ville. ville dans laquelle Vasco de Gama, Emmanuel Ier, circule en Ford. Bon. Alors, la référence historique, elle est minée de nombreuses manières. Je donnerai seulement deux exemples. D'abord, ce sont les notes de bas de page des traductrices qui, en fait, nous donnent des renseignements historiques précis sur ces personnages. Mais le récit, lui, privilégie des biographies un peu fantasques qui sont pleines d'anachronismes. Et il y a un autre élément que je trouvais intéressant. Il y a quelques personnages dans le récit qui sont peut-être de moins bonne composition que le lecteur, ou peut-être moins dupes que lui aussi. Qui mettent en question la stabilité psychologique de ces figures historiques, ce qui vaut notamment à Vasco de Gama, Emmanuel Ier, de finir interné de force. Donc il y a une ambiguïté de statut de ces figures, à laquelle s'ajoute le fait qu'ils apparaissent en véritables anti-héros, puisqu'ils sont désœuvrés dans une époque qui n'est pas la leur. Il y a cette belle formule qui les caractérise à un moment donné, les explorateurs de marins au chômage. Et donc, bon, la plupart sont devenus des vieillards alcooliques, séniles, qui sont pris dans une décrépitude qui est poussée à un tel degré de précision physiologique que je crois qu'on s'en défend forcément dans un rire un peu jaune, quoi, en tant que lecteur. Donc on a des héros complètement démystifiés qui sont pris dans cette dynamique absolument burlesque et qui font retour précisément au moment de la décolonisation, donc au moment de l'échec de l'entreprise qu'eux-mêmes ont initiée, c'est-à-dire celle de l'esclavage et de la colonisation. Et là, il me semble que la contre-épopée dessinée par Antonio Lobo Antunes pointe du doigt un certain court-circuit de l'histoire. Alors, je voudrais simplement, pour conclure, évoquer un point qui, selon moi, vient quand même contrebalancer cette critique historique dans le roman Le Retour des Caravelles, et qui est l'écriture même de Antonio Lobo Antunes, parce qu'il me semble que si une quelconque dimension sublime résiste dans ce roman, c'est vraiment au niveau de l'écriture que ça se joue. Puisque cette langue d'Antonio Lobo Antunes, elle est intelligemment précieuse, complexe. Bon, elle permet le surgissement d'images qui sont très inattendues. Et puis elle porte aussi cette ironie qui est tout à fait savoureuse tout au long du roman. Et là, il me semble que peut-être on peut rapprocher Antonio Lobo Antunes de l'auteur de Belle du Seigneur, Albert Cohen, avec qui il partagerait aussi peut-être ce flux énonciatif à la densité vraiment très savamment rythmée. Donc peut-être que l'écriture, là, elle se fait, enfin, elle se rapproche du chant de l'Aède antique qui chantait l'épopée, et qu'elle, la magie de ce chant, justement, permettrait de donner à sentir, alors de façon tout aussi didactique que poétique, la sédimentation de l'histoire, donc de la grande histoire à laquelle l'auteur redonne vie, mais sans pour autant léser les petites histoires de chacun. Et je crois que là, Antonio Lobo Antunes nous offre une œuvre qui est d'une grande humanité. Voilà, merci.
Merci Léa Casadamon, merci de cette évocation du Retour des Caravelles. Et si vous passiez votre vie à lire Antonio Lobo Antunes, ce serait une vie bien réussie, je pense. Je vais laisser maintenant la place à Yann Nicole qui va reprendre le flambeau, s'il veut bien.
Bien, oui, on va poursuivre donc ces années 90 en recevant Marie Dariosek qui doit être quelque part dans la salle et qui va venir me rejoindre. Bienvenue à vous, chère Marie, installez-vous, merci beaucoup d'être là. Peu importe, mettez-vous là, peut-être on vous verra mieux. Vous êtes là pour nous parler de votre livre, de l'un de votre livre, qui était votre premier roman, qui s'intitule Truisme, publié en 1996 aux éditions POL, qui est toujours d'ailleurs votre éditeur, quelques années après. Un roman dont vous allez nous parler évidemment en détail, dont on peut dire de manière très sibylline qu'il raconte la mutation progressive d'une femme en truie, un roman qui, comme le disait Sylvain Bourmeau tout à l'heure, a beaucoup marqué la décennie 90 et au-delà, qui a été aussi pour vous une entrée en littérature extrêmement fracassante. Donc je crois que vous avez emmené un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses pour nous reparler 20 ans après de ce roman Truisme, et puis on aura peut-être l'occasion de dire un mot de votre nouveau roman publié chez POL là, en cette rentrée littéraire, qui s'intitule Notre vie dans les forêts, et dont vous me disiez qu'ils étaient aussi quelque part liés.
Bonjour. Truisme donc, a été mon premier roman publié. J'en avais écrit quelques-uns avant, mais non publié. Pour moi, donc, j'avais 27 ans en 1996 quand il a été publié. Et d'abord, ce livre a changé ma vie. Et il se trouve que je l'ai relu quand Alfredo Arias en a fait une adaptation au Théâtre des Champs-Élysées en 2011. Je ne l'avais jamais vraiment relu avant. Et quelque part, ça reste un roman qui continue à me sidérer moi-même. Enfin, je suis toujours très étonnée qu'il soit sorti comme ça de ma petite tête. Quand j'étais quand même... J'habitais en banlieue à Malakoff, j'étais étudiante en thèse, je traînais un peu ma misère quand même, j'étais très dépressive, je me rappelle. Et je ne sais pas comment ce livre est sorti de moi comme ça et m'a traversée en quelque sorte. Et c'est beaucoup nourri, ça je le sais, de l'époque dans laquelle il était, de la colère confuse, de la confusion dans laquelle j'étais moi-même, d'une grande colère sociale et aussi de femme. Et quand je l'ai relu, donc, je me suis dit qu'en fait, moi, je vieillissais, mais par une espèce de miracle qui m'échappe, ce livre, il tenait le choc, en fait. Et il parlait encore d'aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, en fait. Et je suis toujours un peu étonnée. Et c'est un livre qui m'a évidemment ouvert toutes les portes. Enfin, ça a été absolument magique. Je ne pourrais pas raconter tout ce que ce livre m'a fait, finalement. En particulier, donc, les droits avaient été achetés par Jean-Luc Godard tout de suite, dès la sortie du roman. Donc j'ai rencontré Godard, c'est un livre qui m'a fait rencontrer aussi Nathalie Sarraute, ça a été deux grandes rencontres de ma vie. Et puis après, donc, c'est un livre qui reste vivant, et ça c'est un cadeau pour un écrivain ou une écrivaine. C'est un livre qui est beaucoup étudié un peu partout. Et alors j'ai amené des objets, ça c'est une peau de cochon véritable, qui m'a été envoyée par une formidable vidéaste américaine qui s'appelle Floria Sigismondi, qui fait les vidéos de Björk, des White Stripes, les dernières vidéos de David Bowie. Enfin, et donc j'ai reçu par la poste cet objet, parce qu'elle a toujours en tête d'adapter Truisme au cinéma, à Hollywood. Alors comme vous savez peut-être ou pas, mais les projets de cinéma, c'est toujours très long et compliqué. Mais je me suis dit quand même, cette fille... Elle a quelque chose, et on s'est rencontrés, et bon, le projet avance. Je vous ai apporté aussi, dans un univers très différent, ça m'a été offert à Kinshasa par un lecteur. Donc c'est un marcassin de la forêt congolaise que j'aime énormément. C'est une marionnette, bonjour. Et elle est dans mon bureau depuis tout ce temps. J'étais à Kinshasa il y a, je ne sais pas, 5 ou 6 ans. Et puis ça, tout simplement, en fait, j'en ai des milliers, hein, des petits cochons, peut-être pas des milliers, mais bon. Ça m'a été offert par Arabella Cruz, qui est mon agente pour les pays scandinaves, lors de la fête des 20 ans de Truisme l'année dernière. Voilà. Donc c'est un livre qui continue à vivre et qui, quand je l'ai relu à l'occasion de l'adaptation, en fait, il y a un personnage de président de la République qui s'appelle Edgar. C'est un monde apocalyptique, c'est un monde qui ne doit pas arriver, mais qui, je trouve, se rapproche de nous. Et Edgar, à l'époque, c'était une caricature, on peut le dire, mais bon, faut-il le caricaturer, de Le Pen. Il se suffit à lui-même. Et en fait, en le relisant après, ça correspondait mais alors, ça correspond tellement à Trump aujourd'hui, mais je ne voudrais pas être trop méchante pour Sarkozy, mais ça correspondait parfaitement à Sarkozy aussi. La mannequin, le yacht, la grosse Rolex, envoyer tous les gens qui dérangent dans des charters, là, qui rentrent chez eux. Enfin, tout ça. Alors, c'est un roman qui est écrit au pas de charge, mais qui a à la fois été énormément lu, et ça a été ma grande chance, et aussi par par moments un petit peu mal lu. Enfin, c'est un roman pour lequel j'ai beaucoup d'affection, voilà, tout simplement, toutes ces années après. Et surtout aussi, ça a été le début d'une grande amitié avec les éditions POL. Et évidemment, j'y suis toujours 21 ans après. Voilà.
Juste peut-être un petit mot, parce que je disais que votre dernier livre venait d'être publié, Notre vie dans les forêts. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez de truisme, on pourrait parler du rapport au corps, la question de l'apocalypse ou de la vie d'après, la question de la solitude, peut-être aussi la question de l'émancipation. Ce sont des motifs que l'on retrouve dans l'un et l'autre de ces livres. Peut-être pour terminer ce très court entretien qu'on a, nous dire un petit mot de la manière dont 20 ans après, finalement, il y a aussi encore des rhizomes comme ça, des choses qui résonnent à partir de ce premier roman publié en 96.
Ce qui résonne, évidemment, c'est, disons pour le dire vite, les thématiques, et puis tout simplement l'animal, qui est absolument dans tous mes livres, peut-être même plus que le corps, parce que le corps, quel écrivain ne parle pas du corps, mais je parle vraiment systématiquement de l'animal. Et puis, tout simplement, la forme, enfin, tout simplement, ou de façon au contraire très complexe, la forme, c'est-à-dire dans les deux cas, dans mon tout dernier roman et dans le tout premier, ce sont deux femmes qui parlent, c'est pris par la voix d'une femme qui parle avec difficulté, qui parle avec urgence et dans un corps problématique. Et je sais très bien, je le sais intimement, que ça part de la même source, de ces personnages qui me parlent et qui sont dans une forme de candeur et qui essayent vraiment de comprendre ce qui leur arrive avec leurs moyens, leurs outils. Et j'ai énormément d'affection pour ces personnages-là qui sont très présents dans tous mes livres. Hein. Mais là, c'est vraiment, c'est pas la même voix, mais c'est la même. C'est une écriture assez nerveuse, enfin assez urgente, voilà. Je l'ai écrit, mon dernier roman, pendant toute la campagne électorale, qui m'a, comme vous tous peut-être, beaucoup usée et angoissée. Et entre 2017 et 96, il y a un pont, il y a un viaduc, il y a une autoroute assez flippante, en fait. Voilà. Dans 20 ans, on verra à quoi ressemblera le monde par nos fenêtres, mais...
Vous parliez, je crois, de colère sociale aussi par rapport à truisme. Mmh. Il y a quelque chose de cet ordre qui est encore vigoureuse aujourd'hui.
Ça s'est aggravé. Donc, dans mon dernier roman, je parle de cette chose toute simple dont on entend beaucoup parler, mais donc des 1% de riches qui possèdent 99% de ce qui est possédable. Et ça s'est aggravé, je trouve. Dans les années 90, c'était un tout petit peu moins inégalitaire. Mais voilà, je ne suis pas une théoricienne ni même tellement une tête politique, mais j'ai des histoires à raconter et je constate que ce qui me traverse, c'est pas toujours très joyeux. Mais en même temps, j'espère, dans les deux cas, il y a aussi ce fil, c'est que j'espère, sauf quand c'est peut-être un petit peu mal lu, mais j'espère que ce sont des livres drôles, voilà, comiques, voilà, ce sont des fables. Et j'espère aussi qu'on peut rigoler du désastre parfois, quoi. Voilà. Quand il reste ça.
Bien, ben merci beaucoup d'être venu nous voir, Marie. Merci à vous. Donc vous pouvez revenir à Truisme, donc datant de 96, et Notre vie dans les forêts, qui vient tout juste de paraître aux éditions POL. Enchaîné avec un livre d'Imre Kertész qui s'intitule « Être sans destin ». Et je vais demander à Océane Pascual, qui est lycéenne, de nous rejoindre, qui a choisi de parler de ce livre. Je vous laisse vous installer où vous le souhaitez. Merci. Je vous en prie, allez-y.
Je me suis longtemps demandé comment j'allais faire cette critique, de quelle manière, de quel point de vue j'allais aborder ce livre. Être sans destin, d'Imre Kertész. C'est le prix Nobel 2002, une œuvre traduite en toutes les langues et connue dans le monde entier, vue par moi, une lycéenne. Je me demandais si j'allais avoir les mots justes, si j'allais savoir exploiter correctement mon ressenti quant à cette lecture, mais surtout, si j'allais réussir à faire quelque chose qui correspondait à la volonté de l'auteur en écrivant ce livre. Puis, j'ai compris que c'était surtout une affaire d'hommage, un travail de mémoire à ma petite échelle, pour honorer la complexité et la richesse incroyable de ce livre. Elle se traduit d'abord par le personnage. Imre Kertész a 15 ans lorsqu'il est arrêté et déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald. Il n'a qu'un an de moins que moi. Il découvre la vie et ses tourments au travers de la guerre. Son premier amour, son premier baiser, tout se déroule dans une atmosphère de bombardement, de peur et de refuge, un quotidien bien trop éloigné de celui que devrait avoir un adolescent. Ce qui nous guide, tout au long du récit, tel un fil conducteur, c'est la candide et enfantine naïveté du narrateur. On suit ses pensées sous la forme d'un flux de conscience et on assiste alors à son cheminement autonome vers l'acquisition d'une maturité presque forcée. Lors de son arrestation, en 1944, Imre Kertész n'est encore qu'un enfant. Il voit la vie comme un jeu. Lorsqu'il est retiré du lycée pour aller travailler avec d'autres garçons de son âge, là où certains y verraient une désolation, lui choisit l'excitation, celle d'une expérience nouvelle, avec des garçons qu'il appelle ses amis, celle de prendre le bus, d'avoir une carte d'identité, toutes ces petites choses, ces petites inhabitudes quotidiennes qui amusent les enfants. Ensuite, il y a beaucoup de choses qu'on ne lui dit pas, qu'il devine par lui-même, ou du moins qu'il essaye de deviner, avec l'incompréhension et l'expérience d'un enfant de 15 ans. Il y a aussi ce questionnement de l'identité, à un âge où on essaie justement de trouver la sienne. À plusieurs reprises, Kertész se pose ces questions, ces interrogations intemporelles. Faut-il être fier de ses différences ? Faut-il en avoir honte ? Pour lui, c'est cette différence qui lui semblait minime qui lui a arraché son père, arraché son quotidien douillet, qui l'a plongé dans un monde de discrimination et d'inégalité. Il reste cependant le plus optimiste sur ce sujet lorsqu'il en parle avec ses voisines. Contrairement à beaucoup, il distingue la personne de sa religion, ses valeurs de celles que lui imposent ses croyances. Il explique avec une grande bonté que c'est bien souvent la notion même du juif que les gens détestent, et non eux, même si c'est pourtant bien eux qui mouraient au nom de cette notion insensée. Cette même bonté, cette sorte de philanthropie, se retrouve à plusieurs moments du récit, un aspect qui m'a souvent décontenancé. Il parle des policiers hongrois qui étaient gentils et à l'écoute envers eux, qui étaient parfois eux-mêmes dépassés par les ordres supérieurs qu'ils recevaient. Ils ne tombent pas dans ce manichéisme de l'autorité. On assiste cependant, au fil du récit, à une transformation majeure qui se retrouve au niveau du ton du texte, au niveau de la maturité de l'auteur, passant d'un enfant innocent à un adolescent touché par la réalité des camps, de la mort et de la faim. À son arrivée, il avait encore des réflexes qu'on peut qualifier de scolaires. Il s'attendait toujours à un peu de reconnaissance après un travail accompli. Prenez exemple sur les adultes. Mais rapidement, Kertész tombe dans la désillusion de la réalité, là où sa culture et son éducation s'entrechoquent avec une réalité plus tordue, plus injuste. Là, celle où il doit mourir pour vivre, celle où il doit mentir pour vivre, où il comprend que si l'homme est capable du meilleur, cela signifie aussi qu'il est capable du pire. Et c'est cette révélation qui nous guidera, je pense, jusqu'à l'autre point le plus marquant et le plus important du livre, la distanciation dérangeante. Publié en France en 1998, Être sans destin a fait polémique. Si la France a été habituée aux récits des camps, rarement des comme celui-là. L'œuvre dérange, principalement par cette distance que met l'auteur entre lui, nous et son expérience. C'est quelque chose qui nous travaille tout au long du livre, quelque chose que l'on a du mal à comprendre, qui peut même orienter notre lecture de manière négative ou du moins mitigée. On ne comprend pas pourquoi il ne se plaint quasiment pas, pourquoi il s'efforce de trouver du bon dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il voit et dans tout ce qu'il vit. Je me souviens avoir tressailli, avoir repris la page plusieurs fois en lisant ce passage. Et malgré la réflexion, la raison, le discernement, le bon sens, je ne pouvais pas méconnaître la voix d'une espèce de désir sourd qui s'était faufilé en moi, comme honteuse d'être si insensée et pourtant de plus en plus obstinée. Je voulais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration. Cela me paraissait tordu, insensé. Ce n'était pas comme cela que je m'étais fait ma représentation des camps au travers de mes lectures précédentes. Ce n'est qu'à la fin de ma lecture, à la lecture du dernier chapitre, que tout s'assembla dans mon esprit comme dans un puzzle dans lequel les pièces étaient toutes tordues, où régnait une harmonie étrangement dérangeante. Dès son retour, Imre Kertész refuse de s'abandonner à cette urgence de raconter ce qu'il a vécu, comme il le voit tout autour de lui. Même s'il se fait solliciter par des journalistes ou bien de simples curieux. Raconter, ce serait se replonger en plein dedans, s'immiscer dans ce cauchemar qu'il a pris tant de précautions à éloigner. Ce serait abattre ce mur protecteur et laisser la réalité affluer. Cette réalité, il l'avait fui grâce au sublime procédé de la pensée. Kertész le dit lui-même. Même en captivité, notre imagination reste libre. Il explique ce mécanisme naturel, ce besoin d'être autre part, de faire autre chose, et on sent dans son récit que ces moments d'évasion ont constitué une nécessité pour lui, qu'il qualifie même de « propriété perpétuelle et inaliénable ». L'auteur conclut son raisonnement en ces mots. « Je l'avais déjà entendu dire, et je pouvais désormais en témoigner. En vérité, les murs étroits des prisons ne peuvent pas tracer de limites aux ailes de notre imagination. Cela n'avait qu'un seul défaut. Dès qu'elle m'emportait, si loin que j'en oubliais jusqu'à mes mains, la réalité qui, en fin de compte, existerait malgré tout bel et bien en cet endroit, reprenait immédiatement ses droits et les arguments les plus péremptoires et catégoriques. J'ai compris, à la fin du livre, ce pourquoi ce livre m'avait été si difficile à m'approprier. Car Kertész n'a pas voulu raconter ce qu'il avait vécu, mais plutôt le souvenir qu'il en avait. Il a bien compris que ce qu'il s'était passé, ce qu'il avait vu, c'était quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Qu'il y aurait toujours deux types de personnes après la libération, ceux qui avaient connu les camps et ceux qui ne les avaient pas connus. Que les premiers n'oublieraient jamais et que les seconds ne comprendraient jamais vraiment. Ses retrouvailles avec ses proches ont, pour cette raison, été compliquées. Son identité se retrouvait fragmentée. Il l'exprime dans ses paroles. On ne peut pas, il fallait qu'ils essaient de comprendre cela. On ne peut pas tout me prendre. Il m'est impossible de n'être ni vainqueur, ni vaincu, de ne pas pouvoir avoir raison et d'avoir pu me tromper, de n'être ni la cause, ni la conséquence de rien. Je l'ai supplié presque d'essayer d'admettre que je ne pouvais pas avaler cette fichue amertume de devoir n'être rien qu'un innocent. Il y a quelque chose qui m'a marqué vers la fin du livre, lorsqu'un journaliste lui parle de l'enfer des camps. C'est une expression bien connue, que pourtant Kertész a désapprouvée. Pour lui, l'enfer est un concept abstrait, que personne n'a jamais vraiment connu. Or, lui, il a connu les camps. Il les a vus et les a vécus. C'est quelque chose qui est pour lui bien réel. J'ai eu une lecture assez compliquée de ce livre, à son image, mais je pense que c'était justement l'effet escompté. À ce jour, je ne saurais toujours pas dire si j'ai adoré ou si j'ai détesté. Tout ce que je peux dire, et avec la plus grande des certitudes, c'est qu'il m'a touchée. Dans le bon, dans le mauvais sens, à vrai dire, je ne sais même plus où se trouve la frontière, mais je pense que ce livre laissera pendant un long moment sa marque en moi. J'ai été chamboulée et projetée hors de ma zone de confort, confrontée à un style, à un récit dont j'étais encore étrangère, mais qui m'a fait ressentir des choses dont je m'ignorais encore capable. Enfin, si je devais résumer cette œuvre en un mot, ou du moins en un aspect, je parlerais sûrement de sa puissance. Une puissance par les mots, par l'écriture, par les émotions qu'elle provoque, par une réalité qu'Imre Kertész nous impose, une réalité à laquelle on aimerait détourner le regard, mais qui est pourtant bien réelle. Être sans destin, c'est un livre qui nous transperce, qui nous chamboule, qui nous dérange, mais surtout un livre qui nous marque et qui nous change.
Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Bravo à vous. Merci beaucoup. On va poursuivre. Je vais demander à Thierry Hez de me rejoindre. On va parler maintenant d'un livre de Sebald qui s'appelle « Les émigrants ». Cher Thierry, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'être là. Tu es écrivain, Thierry, romancier. Tu as publié un certain nombre de livres, d'abord aux éditions Champ Vallon, et notamment un beau livre qui s'appelle Jura, que j'aime énormément. Et puis ensuite, des livres aux éditions de l'Olivier, Démon, et plus récemment, le roman Impossible. Je crois que Sebald est un écrivain qui compte beaucoup pour toi, sur lequel tu as écrit notamment dans un volume édité chez Inculte. Donc je vais te donner tout de suite la parole pour que tu nous parles de ces émigrants qui est daté, je crois, de 1999 pour la traduction française. Mais je vais te laisser tout de suite la parole, cher Thierry.
Merci Yann. Oui, alors les émigrants de Winfried Georg Sebald et le deuxième livre en prose de cet auteur. Il est paru en Allemagne en 1991 et il a été publié en France en 1999. Alors pour le présenter simplement, il s'agit d'un ensemble de quatre récits de vies individuelles qui sont illustrés par des photographies et des reproductions de documents, semble-t-il, personnel de l'auteur. Et surtout, il s'agit d'un livre écrit dans une langue, je dirais, inouïe, car bien qu'elle soit lugubre et qu'elle répand, je dirais, sur ses lecteurs une sombre mélancolie, elle suscite également chez eux une forme d'envoûtement. c'est d'abord ce qui nous frappe quand on ouvre un livre de Zébal, et en particulier Les Immigrants, c'est cet état d'envoûtement dans lequel on se trouve assez rapidement. Alors Winfried Georg Sebald, à 47 ans, en 1991, quand paraît Les Immigrants, et il en avait 44 à la parution de son premier ouvrage proprement littéraire. Il est alors professeur dans une université de l'Est de l'Angleterre, ce qui permet de penser que, jusqu'à cette date, il a mené une activité discrète d'enseignement avant d'éclore comme écrivain. Comme si l'écriture, chez Sebald, avait tardivement rehaussé une existence peut-être sans relief, une existence qui aurait tout aussi bien pu, si le hasard en avait décidé autrement, demeurer ce qu'elle était, de sorte que Les Émigrants n'auraient jamais été écrits, que le livre ne serait jamais arrivé jusqu'à nous, et que jamais ne nous auraient été racontées les quatre histoires qui le composent. Histoires qui, autant qu'on puisse le savoir, sont bel et bien réelles. Histoires vraies, comme on dit aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? Un chirurgien à la retraite, époux d'une riche propriétaire, se donne la mort avec son fusil de chasse. Un ancien instituteur reconnu pour ses mérites se couche sur une voie ferrée avant le passage du train. Un vieux valet de chambre, homme de goût et de culture, se soumet à des séances d'électrochoc qui finissent par le tuer. Enfin, un peintre, dont l'œuvre est estimée, se laisse mourir dans un hôpital pour nécessiteux. Ces quatre histoires semblent, quand on les présente ainsi, empruntées à la rubrique des faits divers. Ce sont, pense-t-on, des vies anonymes qui basculent dans le drame. Un frisson nous saisit, et puis on passe à autre chose. Or, ce qui se passe ici avec Sebald, c'est que l'histoire du docteur Henry Selvin, celle de l'instituteur Paul Beretter, celle du valet de chambre Ambrose Adelwart, comme celle du peintre Max Ferber, telles que nous les raconte Sebald, il nous est absolument impossible de les oublier. Et ce n'est pas en raison de leur atrocité, parce que des histoires atroces, bien sûr, il y en a d'autres, et bien plus que celle-ci, mais parce que si nous entrons dans le récit qu'en fait Sebald, avec, je dirais, l'acuité absolument extraordinaire de sa prose, une prose méticuleuse, crépusculaire et fascinante, l'art unique aussi qui est le sien, de nous rendre incroyablement présents ces personnages qui sont pourtant fantomatiques, ces vies racontées agissent sur nous comme une révélation. Quelle est cette révélation ? Nous appartenons désormais à un monde qui n'est plus. Et ce monde n'est plus, non parce qu'il est passé. Au contraire, chez Sebald, le passé est toujours présent, mais parce qu'il est détruit, parce que s'y est produit une catastrophe. Alors, rarement ceux qui choisissent le métier d'écrire abordent la vie de façon sereine. Sebald le reconnaît lui-même dans un cours qu'il donne dans les années 80 et 90 dans son université anglaise, cours qui était consacré essentiellement à la littérature autrichienne, et dans lequel il cherche à montrer que les principaux représentants de cette littérature, en tout cas ceux qu'il étudie, en l'occurrence Schlitzler, Joseph Roth, Musil, Thomas Bernhard, souffrent d'un désespoir beaucoup plus grand, dit Sebald, que la moyenne des écrivains. Mais rien n'oblige non plus à écrire, aurait pu ajouter Sebald. Sauf si l'effort que l'on y met aide, le cas échéant, à surmonter l'angoisse et évite de s'allonger sur une voie ferrée ou de se tuer avec un fusil de chasse. Au fond, Winfried Geurtzebal n'est pas devenu écrivain par hasard. Je dirais même, si la notion de destin ou de détermination psychique n'est pas une fantasmagorie, mais existe bel et bien, je crois qu'il y a peu d'écrivains comme Zebal chez qui cette notion s'accomplit avec autant de vertige et aussi de grandeur. Je vais accélérer. Le destin.
Pardon.
Winfried Geurtzebal, né en mai 1944 à Werthach, un village de Bavière réputé pour ses paysages alpins et sa production de Weisslacker, un fromage sans croûte qu'on déguste agrémenté de bretzel. Il ne rencontre pour la première fois son père, officier dans l'armée allemande, puis prisonnier en France qu'à l'âge de 3 ans. Il est alors élevé par son grand-père. À 8 ans, il va vivre avec sa famille dans la ville voisine de Zonthofen, susceptible de lui offrir un meilleur avenir que Werthach et ses pâturages déprimants. Dans le cours de l'histoire, Zonthofen s'est peu distingué. Comme d'autres localités de Bavière, elle a donné naissance à des alpinistes audacieux, à de petits industriels prospères, à des peintres oubliés. Le seul fait remarquable est qu'en 1936, le parti nazi y a fait construire un ensemble architectural impressionnant, baptisé le Château de l'Ordre, Ordensburg. Trois châteaux du même type seront édifiés à cette époque en Allemagne et serviront d'école aux futurs cadres du régime, ceux-là même qui feront subir aux populations de l'Est le joug du Reich et mettront en œuvre le programme d'élimination des peuples jugés nuisibles. C'est au lycée de Zonthofen que Zebald passe au début des années 1960 son Abitur, l'équivalent de notre bac. Après des études universitaires en Suisse, il s'installe donc en Angleterre où il vit, enseigne, puis écrit jusqu'à sa mort en décembre 2001, consécutive à un malaise cardiaque survenu en voiture. Il a alors 57 ans et n'est jamais retourné en Allemagne. Lui-même n'a pas directement connu la catastrophe. Là où il vit, enfant en Bavière, la petite bourgeoisie à laquelle appartiennent ses parents a offert son large soutien à Hitler, moins pour des raisons idéologiques que parce qu'elle a placé en lui la garantie de ses privilèges sociaux. Après-guerre, personne ne parle de ce qui a frappé pour toujours l'humanité européenne. Et Zebal ne demandera jamais à son père « Papa, qu'as-tu fait en Pologne en 1939 ?» Si le lycée de Zonthofen représente le seul endroit, dit Zebal, où il est question d'histoire, son enseignement est sans éclat. Les périodes successives, Antiquité, Moyen-Âge, guerre napoléonienne, sont passées en revue avec une forme de lassitude. Et puis, juste avant le bac, dit Zebald, on nous montre un film sur les camps de concentration, sans le moindre commentaire. Qui sont les émigrants? Et pourquoi leur sombre mélancolie, dont est empreinte chaque page du livre, les conduit à la mort? Chacune de ces vies, celle du docteur Zelvin, de l'instituteur Beretter, du valet de chambre Adelwart, du peintre Ferber, trouve sa résolution, on le découvre peu à peu à la lecture, dans la catastrophe qui a détruit l'Europe et une partie de notre espèce. Chacune de ces vies écrit à sa manière le commentaire manquant du film sur les camps que l'on projetait, naguère, au lycée de Zonthofen. Nous appelons immigrants, aujourd'hui, des individus dont le lieu natal a été perdu ou détruit. Les émigrants de Zebal souffrent d'une double perte. Ce n'est pas seulement leur pays qui s'est éloigné, c'est l'Europe et le monde. Son œuvre qui tient en quatre livres majeurs, Vertige, Les émigrants, Les anneaux de Saturne et Austerlitz, est l'une des plus malheureuses qui soit. Plus malheureuse encore que la littérature autrichienne. Et cependant, je crois, l'une des plus nécessaires. Car elle nous apprend quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Nous sommes devenus des émigrants parce qu'il n'y a plus désormais un monde capable de nous protéger. Quand il a commencé à être publié, dernière anecdote, Zebald a décidé de réduire son double prénom, Winfried Georg, à deux initiales énigmatiques, WG, en allemand, double VG. Winfried Georg est un prénom qu'il haïssait, un prénom vraiment nazi, disait-il. Double VG Zebald, dissimulation bien dérisoire. J'ai hérité de ce fardeau et il faut que je le porte, que que cela me plaise ou non. Merci.
Merci beaucoup, cher Thierry. Désolé de vous avoir mis un petit peu au pas de course, mais c'est vrai que le marathon est un peu rythmé. Merci beaucoup pour cette présentation magistrale de Zebald et des émigrants. Je laisse la place tout de suite à Thierry Guichard pour les deux derniers livres de cette décennie 90.
Merci. On va maintenant accueillir quelqu'un que vous êtes nombreux ici à attendre, qui a commencé à publier en 1992, mais c'est pour son huitième roman qui s'appelle Stupeur et tremblement que nous accueillons maintenant Amélie Nothomb, et avec elle, nous accueillons aussi Marianne Payot, qui est rédactrice en chef au département Livres à l'Express. Vous allez vous asseoir toutes les deux là, si vous voulez bien. Et Marianne Payot va interroger Amélie Nothomb autour de ce livre, donc paru en 1999 chez Albin Michel, Stupeur et tremblement. Merci.
Bonjour à tous. Vous m'entendez ?
Non. Est-ce que ça marche ? Formidable.
Alors, comme c'est un marathon, on va aller vite. Et je propose qu'on joue aux chiffres et aux lettres. Enfin, surtout aux lettres. Mais on va commencer par un chiffre, si vous me suivez. Donc, 8. 8 comme votre 8e roman, à l'âge de 32 ans. Vous publiez donc Stupeur et tremblement. A-t-on conscience d'écrire un best-seller ?
Mais pas du tout. Quand j'ai écrit Stupeur et tremblement, je voulais que ma destinée de martyr s'accomplisse, puisque ma véritable ambition était de devenir martyr, et ça m'est réellement arrivé, puisque c'est une histoire vraie, ce que je raconte dans Stupeur et tremblement. Je raconte mon histoire 1990 dans une grande entreprise japonaise. Je rappelle les faits. En 89, je pars au Japon avec l'ambition de devenir japonaise. La première année, je réapprends le japonais qui avait été la langue de ma petite enfance. La deuxième année, je suis engagée dans l'une des plus grandes entreprises japonaises, l'une des 7 Sogo Shosha, qui sont ces espèces de monstres financiers qui sont les grandes puissances du Japon, les véritables dirigeantes du Japon. J'y entre en ayant la conviction qu'un grand destin m'attend, car enfin je maîtrise parfaitement la langue japonaise et je me sens extrêmement brillante et compétente. Et c'est là que commence une chute sociale tout à fait extraordinaire, puisque engagée comme interprète belgo-japonaise, on sent tout de suite qu'il y a l'erreur est déjà comprise dans l'énoncé. Je vais me retrouver en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Dame pipi de l'entreprise.
Alors, évidemment, vous avez complètement grillé mon jeu. Pardon. De chiffres et lettres, mais c'est pas grave. Alors, est-ce comme Stupeur et tremblement ? C'est un titre génial, finalement, qui va être utilisé après dans toutes les conversations. Vous souvenez-vous à quel moment, je crois qu'il fait référence à l'ancien protocole impérial, vous souvenez-vous à quel moment vous l'avez trouvé, ce titre ?
Oui, j'étais en cours d'écriture du livre et je voyais bien que ce livre, bien sûr, racontait des choses effroyables qui m'étaient en même temps arrivées et qui en même temps étaient drôles et qui en même temps étaient typiquement japonaises, parce que japonaises dans ce traitement de l'étranger, vous savez, à la fois les Japonais sont les gens les plus accueillants au monde et à la fois s'ils peuvent mettre l'étranger face à son propre ridicule, pourquoi s'en priver ? Du coup, j'ai pensé à cette merveilleuse formule du protocole impérial japonais. Il est stipulé que tout Japonais parlera à l'empereur avec stupeur et tremblement. Et cette attitude de stupeur et tremblement résume exactement ce qui a été mon attitude pendant toute l'année que j'ai passée dans l'entreprise japonaise. Et ce n'est pas une expérience si spéciale que cela. Disons que j'y apportais, bien sûr, ma maladresse toute naturelle et inimitable, mais je pense qu'à peu de choses près, j'ai connu la première année d'entreprise que connaît toute personne qui entre dans une entreprise japonaise, a plus forte raison toute femme.
Alors, ça me pousse à parler du c'est comme choc des cultures. N'est-ce pas aussi cette description irrésistible de ce choc des cultures qui est l'une des clés du succès de ce livre ?
Je pense, mais je rappelle que je n'ai pas du tout, quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre comique. Je pense que l'explication de l'effet comique de ce livre, c'est la distance. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre avant 1998. Je l'ai écrit en 98, paru en 99. Somme toute, quand j'ai vécu l'histoire racontée dans Stupeur et tremblement toute l'année 90, je n'ai pas ri du tout. C'était une expérience abominable. Relisez le livre, franchement, il n'y a pas de quoi rire. Enfin, quand on le vit vraiment, il n'y a pas de quoi rire. Je vous assure que nettoyer pour de vrai des toilettes, bon. Mais comme j'avais attendu une durée, j'avais attendu que que cette histoire ne me fasse plus souffrir. Et dès l'instant
où... Ça a pris 8 ans alors.
Ben oui, il a fallu 8 ans pour que cette histoire ne me fasse plus souffrir, pour que la bonne distance se soit installée. Et je pense que le comique du livre est l'effet de la distance. Quand on raconte des atrocités avec une distance suffisante, c'est inévitablement poilant.
Donc on l'a bien vu, c'est A comme Amélie. Donc ce personnage principal s'appelle Amélie. Est-ce votre ouvrage le plus autobiographique ?
C'est bien sûr un ouvrage totalement autobiographique. Il y en a d'autres. Métaphysique des tubes, ni d'Ève ni d'Adam, etc. Biographie de la fin. Mais celui-ci était... même si ce n'était pas mon premier ouvrage autobiographique, c'était le premier dont le caractère autobiographique pouvait paraître choquant. Puisque... voilà, je me souviens très bien qu'à l'époque, bon, beaucoup de gens ont ri, mais il y a eu aussi beaucoup de jeunes publics, en particulier de publics lycéens, pour venir m'engueuler lors des séances de dédicaces en disant mais c'est scandaleux, comment est-ce que vous avez pu accepter de vous faire traiter comme ça? En vérité, vous êtes masochiste. Et pourtant, j'ai la conviction que je ne suis absolument pas masochiste. Je rappelle que j'étais partie au Japon dans l'intention de devenir japonaise, pas du tout pour faire la révolution. Donc j'étais prête à me plier à tous les usages locaux, y compris les plus humiliants.
Oui, parce que H comme hiérarchie, et c'est là que vous faites aussi une description terrible de la firme japonaise, une entreprise qui finalement dévore ses employés, dans laquelle il y a des chefs totalement féroces, notamment la vôtre. Je me demandais, pensez-vous que cela a changé aujourd'hui? Ou est-ce que quelques années plus tard, l'ambiance dans une grande entreprise japonaise, à votre avis, est-elle toujours la même?
Je n'ai aucun moyen de le savoir. Depuis 1960, on dit que le Japon change. C'est le grand slogan, c'est le Japon change. Et de fait, pour ce qui est de la technologie, il n'y a pas de doute qu'il change. Pour ce qui est des catastrophes nucléaires, il n'y a pas de doute qu'il change. Même économiquement, il change, puisque la crise s'est installée à partir de 1995 et qu'elle n'a pas cessé d'empirer. Mais pour ce qui est des mœurs, Je n'en suis pas sûre. C'est un livre qui a fait un grand scandale au Japon. Aujourd'hui, le scandale s'atténue parce que les Japonais me disent « Oui, mais ce que vous décrivez dans ce livre, c'est le Japon de 1990. Depuis, il a tellement changé. » Je n'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais ça m'étonnerait que ça ait beaucoup changé. Je dirais plutôt que j'ai plutôt l'impression que c'est le reste du monde qui, de plus en plus, a tendance à imiter le Japon. C'est ce qui fait que Stupeur et tremblement est un livre, finalement, de moins en moins japonais et de plus en plus mondial.
Justement, T comme traduction. Combien de traductions de ce livre a-t-il existé ?
46.
C'est colossal. C'est votre roman qui a été le plus traduit dans le monde
Je pense que oui. Je pense que oui. Y compris dans des langues telles que le... comment ça s'appelle encore ? L'espéranto. J'adore l'idée que ce livre se traduit en... C'est une ferme de l'Allier qui est mon éditeur espérantiste. J'adore cette idée.
Mais au Japon, il y a eu évidemment des réticences. A-t-il été traduit tout de suite au Japon ?
Oui. Alors ça, c'est un grand crédit à faire au Japon. C'est évidemment un livre très critique à l'égard du système japonais qui a aussitôt été acheté et traduit par le Japon. Si j'avais écrit un tel livre sur la Chine populaire, je ne suis pas persuadée que la réaction aurait été la même. Alors, bien évidemment, il a été très abondamment critiqué par les Japonais, encore que pas par tous. Disons, pour simplifier, je dirais que les puissants Japonais ont dit que c'était un scandale et une calomnie de pauvres Belges qui n'avaient rien compris. Mais il s'est trouvé énormément de petits employés japonais pour me dire « mais oui, c'est exactement ça ».
Et vous en parliez tout à l'heure de ce merveilleux job qui n'était pas un job de dame pipi. 7 mois quand même, c'est pas rien.
Écoutez, je vous assure...
Et vous avez même songé à vous défenestrer vraiment à un moment donné.
C'était une défenestration poétique, mais je rappelle que ce n'est pas en nettoyant les toilettes de l'entreprise que j'ai le plus souffert. C'est en étant comptable de l'entreprise que j'ai le plus souffert. Parce qu'au moins, quand je nettoyais les toilettes, je comprenais ce qu'on me demandait. C'était déjà un progrès par rapport à ma précédente affectation qui consistait à corriger les livres de comptes. Enfin, ça a été, sans le vouloir, ça a été une vengeance extraordinaire parce que j'ai injecté des erreurs dans la comptabilité de l'entreprise pour au moins 20 ans.
Et vous posez cette question, vous vous étonnez qu'il n'y ait pas plus de suicides d'employés japonais finalement?
Oui, c'est le pays au monde où on se suicide le plus et notamment sur son lieu de travail. Très sincèrement, pour avoir vécu l'expérience de l'intérieur, je suis étonnée que le suicide y soit si rare. Parce que, somme toute, Moi, j'avais une porte de sortie. Ma nationalité me permettait d'aller vivre dans un autre pays. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que les Japonais de l'intérieur font pour supporter pendant 40 ans de leur vie une telle situation ?
Il y a les Japonais, mais il y a aussi les Japonaises. Oui. Parce que F comme femme, parce qu'on voit bien que dans ce système, si l'employé japonais n'est pas très bien traité, l'employé japonaise, c'est encore pire.
C'est évidemment pire.
Il y a une espèce de mépris de la femme et de phobie de l'individualisme. C'est tout vous, si je puis dire. Ça vous, c'est pas vraiment votre tasse de thé.
Mais c'est,
que cet environnement, que cette ambiance.
Le malheur de cette misogynie japonaise est qu'elle ne repose sur aucune idéologie moderne, vu que les Japonais sont tous d'accord aujourd'hui pour dire que la femme est l'égale de l'homme. Ils en sont tous convaincus, mais ça n'a absolument rien changé à leur fonctionnement d'entreprise. Donc, on considère la femme comme l'égale de l'homme, mais elle est tout aussi maltraitée qu'avant. Quelque part, ça rend le système encore plus pervers. Les femmes japonaises n'ont presque aucun espoir d'ascension sociale dans une entreprise. À diplôme égal, les probabilités qu'une femme s'élève, mais quand je dis s'élève, ce n'est pas pour devenir chef d'entreprise, hein, mais qu'elle s'élève un tout petit peu, sont absolument minimes. Et puis, bien sûr, il y a... quand une femme une japonaise de 25 ans n'est pas mariée, c'est tout de suite la honte sociale. La femme reste un être qui doit se marier et bien évidemment qui doit avoir des enfants.
Et ne plus travailler ou rester mais éventuellement à la maison.
C'est vrai qu'on voit, beaucoup de femmes déserter l'entreprise alors qu'elles sont surdiplômées et on ne peut que les comprendre. Quand elles ont fait le tour de la question, elles se disent que finalement avoir une vie nulle chez soi, c'est quand même moins pénible que de se faire tout le temps humilier sur son lieu de travail.
Eux, comme excuse, vous écrivez, un Japonais qui s'excuse pour de vrai, cela arrive environ une fois par siècle.
Oui, alors il faut...
C'est un trait d'humour.
Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par excuse. Nous avons tous remarqué que les Japonais s'excusent continuellement, mais ils s'excusent pour des broutilles pour lesquelles il n'y a pas lieu de s'excuser. En revanche, par exemple, les Chinois et les Coréens ont attendu, espéré, exigé des excuses historiques pour le mal commis par le Japon pendant la dernière guerre. D'abord, les Japonais ont attendu 40 ans pour dire quelque chose. Et puis, quand après 40 ans, ils ont daigné s'exprimer, ça a été encore pire, puisqu'ils se sont excusés pour la gomewaku, c'est-à-dire l'impression vaguement négative qu'ils avaient laissée pendant la Deuxième Guerre mondiale en Chine et en Corée. Ce qui fait que finalement, ils auraient mieux fait de ne rien dire du tout, parce que l'impression vaguement négative, c'était une insulte supplémentaire par rapport aux atrocités commises, bien sûr.
Eux, comme exil, il me semble qu'au terme de cette année compliquée au Japon, vous sentiez ni japonaise, ni française, ni vraiment belge. Est-ce que l'exil n'était pas votre véritable nationalité, finalement ?
Oui, l'exil est évidemment ma véritable nationalité, mais depuis lors, il s'est passé des choses. Je rappelle que tout ceci date de 90 puis 99. Bon, depuis lors, il y a eu la fameuse année 2008 où la Belgique a failli disparaître pour de bon. Et je vous assure que ça m'a beaucoup fait réfléchir. Là, pour le coup, j'ai commencé vraiment à paniquer en me disant mais somme toute, ce pays ridicule, ce pays de rien du tout, ce pays à l'identité si vague est un pays qui me correspond très profondément. Et donc, si ce pays venait à disparaître, eh bien, vraiment, pour le coup, je serais apatride. Donc, j'ai mis vraiment le temps, mais je pense finalement que je suis vraiment un écrivain belge.
Vous êtes d'ailleurs membre de l'Académie royale de Belgique, mais c'est l'Académie française qui vous a remis, en cette année 99, son grand prix du roman français. Cela a été un grand bonheur pour vous. Est-ce que ce genre de récompense vous ravit ?
Oui, bien sûr, c'est très agréable de recevoir un très très beau et prestigieux prix littéraire français. En plus, je me souviens qu'il était très bien doté, donc ça m'a permis de refaire toutes mes fenêtres. Donc c'était...
Et Dieu sait que dans le château de Madame la Baronne, il y a des fenêtres. T comme trilogie, donc il y a eu Stupeur et Tremblement. Après, il y a, sur le Japon, il y a encore eu Ni d'Ève ni d'Adam.
Oui.
Puis La Nostalgie Heureuse, oui. Ça forme quasiment une trilogie.
C'est vrai.
Y aura-t-il un quatrième
Écoutez, je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve. Beaucoup de mes lecteurs aimeraient qu'il y ait une suite à l'histoire japonaise, mais vous l'avez bien vu par vous-même. vous m'avez assez vu ici pour vous douter que maintenant je commence ma période française. Donc, mais c'est vrai, je commence tout doucement à raconter ce suprême exotisme qu'est l'exotisme français. Mon premier roman français, c'était Petroni, c'était le portrait d'une jeune Française. Mais je suis encore en train de vous observer. Je crois qu'il y aura d'autres romans dans ma période française.
Et enfin, X comme X millions. Vous vous souvenez de combien de millions d'exemplaires ? Regardez pas comme ça. Vous avez vendu de ce roman en France ou à travers le monde ?
Beaucoup.
Ah, c'est un beau chiffre. Et je crois qu'il est 32, c'est 15 minutes. C'est parfait.
Vous êtes
formidable. Merci beaucoup,
Amélie. Bravo,
Marianne.
Elles sont parfaites, c'est ce que je disais tout à l'heure.